I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yeah. Salut, c'est Juliette Katz de Coucou les Girls et bienvenue dans le podcast. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash. Les enregistrements se font assis par terre dans une ambiance cocooning et propice aux confidences. Bon, en vrai, là, on n'est pas assis par terre, on est assis sur des fauteuils, mais c'est quand même cocooning. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio ainsi qu'une fois par mois sur Twitch pour un épisode hors série. Parfois, les efforts payent. Le succès nous nourrit, les choses se passent comme on les imaginait. Et alors qu'on devrait se réjouir, être fier de soi, on se met à douter. On doute de ses réussites, on attribue ses succès à la chance. Bref, on se sent comme un imposteur et on a peur d'être démasqué. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et aujourd'hui, pour en parler avec moi, dans ce avant-dernier épisode de la saison, je reçois mon amie Élodie Frégé. Bonjour.
Salut.
Comment ça va?
Ça va, comme un imposteur.
Oh super, waouh, la meuf est dans le thème.
D'ailleurs, est-ce qu'on dit une imposteure ou une impostrice?
Ou une imposteuse.
Et est-ce que l'imposteur est typiquement masculin?
T'as la meuf direct, elle enchaîne quand même, même pas le temps de se présenter ni rien.
Oui, on peut...
Bah attends, imposteur, impostrice, imposteuse.
Et ouais, je me posais la question.
Tu as le syndrome de l'imposteuse? Moi, je dirais imposteuse. T'as qu'à inventer, hein.
Bah ouais.
On invente. Bon, alors avant
moi,
de commencer...
Moi, j'aime inventer des mots. Ouais, des néologismes, allez hop.
Inventons des mots.
Des barbarismes.
Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire rapidement ce que tu fais dans la vie? Il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas.
Eh oui, il y en a beaucoup et j'ai hâte qu'ils t'écoutent pour me connaître un peu mieux. Alors, je m'appelle Élodie Vanda Frégé. Je suis née dans la Nièvre il y a bien des années. C'est le moment où tu commences à ne plus dire ton âge, tu sais. Non, j'ai 40 ans et tout va bien. Et je suis auteur, compositeur, interprète, parfois actrice... Parfois, autre chose. Parfois même, j'ai présenté des émissions de télé.
Ah ouais?
Enfin voilà, je fais plein de trucs. Je suis Shiva, en gros.
T'as présenté quoi comme émission?
Non, mais j'ai fait des émissions. J'avais fait une émission sur... Paris Première, je crois, un truc qui parlait des doubles sens dans les chansons.
Okay.
Un peu comme l'émission d'André Manoukian, la vie secrète des chansons.
D'accord.
Bon, ça parlait du double sens dans les chansons. Ma petite entreprise, Alain Bachung. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça.
Ok. Quoi. Si tu devais décrire ta personnalité en trois mots, ce serait quoi?
Ouh là là, est-ce que trois mots suffisent?
Essaye d'être concise pour une fois dans ta vie, Élodie.
Je dirais multiple.
Ok. Donc, c'est quand même qui passe, ok.
Alors attends, multiple.
Si t'as que deux mots, bah c'est deux mots. Hein.
Non, mais multiple correspond bien, mais il faut que je trouve une multitude de mots.
T'es casanière?
Casanière? Alors attends. Non, je dirais hyperactive.
Ok.
Mais avec l'hyperactivité qui parfois est juste dans ton cerveau et t'empêche d'être dans l'action.
Oui, bien sûr, j'y suis constamment.
Donc voilà, c'est l'un ou l'autre en fait. Ouais. Soit tu fais et t'arrives plus à respirer, soit c'est dans ta tête et ton corps ne veut plus rien faire. Tu es comme telle une momie sur ta méridienne.
Ouais.
Et tu te dis, oula, j'ai tout ça à faire, ouh, comment je vais faire?
Et
ma to-do list est beaucoup trop longue et je ne fais rien.
Ouais. Ok.
Donc il y a ça, multiple, hyperactive et j'avoue, si je pouvais dire une qualité généreuse.
Ok, voilà. Ça me va. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt. Est-ce que tu veux que je te donne des exemples de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant?
Oui, je veux bien.
On a eu putain, on a eu du coup, on a eu machin, on a eu... Je sais pas, non, mais c'est des mots, un truc que tu utilises souvent.
Je dis souvent je pense que.
Je pense que. Moi, je pense
Je pense
que.
Beaucoup, mais en vrai, est-ce que je pense vraiment? Ou est-ce que je projette quelque chose que...
Ah, ceci est un autre sujet.
Imaginer et penser, est-ce que c'est la même chose?
Mmh. Mais en tout cas, tu le dis souvent.
Je pense que.
Ok.
Tu vas voir.
L'endroit où tu te sens le mieux?
Bah, chez moi, en fait. Tout simplement. Chez moi, la porte est fermée, les fenêtres aussi. Ouais.
Chez
Très
toi.
Bien chez moi ou dans une forêt, dans les Landes. D'accord. Dans la forêt des Landes, ouais.
Ok. Ce que tes proches disent de toi.
Oula, j'aimerais bien le savoir, dis donc.
Non, mais quoi.
Non, alors ce qu'ils disent de moi, c'est que je suis toujours en retard.
Ok.
Que j'ai la gorge en pente.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que quand je bois, ça
descend. Ah, je connaissais pas.
J'ai une bonne descente, j'ai la gorge en pente.
La gorge en pente, waouh, ok.
Et que je fais énormément de messages vocaux, beaucoup trop longs. Et qu'ils écoutent vitesse grand V.
Oui, vitesse fois 1,5.
Non, non, 2.
2? Ah non, 2, c'est quand sympa. Même, c'est de l'irrespect.
D'ailleurs, mon manager écoute tous mes messages en vitesse 2.
2?
Il me dit, ouais.
C'est trop.
Pourtant,
2 parce que...
j'aime mettre beaucoup de moi, tu vois, dans ces messages. Il y a des respirations, il y a des...
Non, mais le 1,5, je comprends.
Ouais.
Quand on est pressé, mais le 2, du coup, t'es comme ça sur le téléphone, genre, waouh, il faut que je me concentre sur ce que la personne dit.
Ah ouais. Mais je parle parfois peut-être trop lentement, peut-être. Ah non, je vais parler plus vite pour que les gens...
Non, tu parles normalement.
Ouais, je trouve aussi.
2, franchement, Lolo, tu déconnes, hein. Hein, bon, Lolo, parce que c'est l'agent, le manager d'Elodie qui fut mon manager aussi à une époque.
Fou.
Alors, je te propose qu'on commence cet épisode avec un sujet qui, logiquement, tu maîtrises plutôt bien. C'est ce sujet, c'est toi.
Ah, oula.
Le sujet, c'est toi. C'est pas mal.
Mais je suis en pleine rencontre, là.
C'est vrai.
Peut-être que je maîtrise pas tout.
Ok, mais on va voir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel genre d'enfance t'as eu et quel genre d'enfant t'étais?
Alors, oui, je peux. Alors, j'ai eu une enfance très verte. J'habitais dans Lyon, dans un cul, n'importe quoi.
Un cul de sel. J'habitais dans Lyon, dans un cul. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. C'était Elodie Frégé avec moi. À bientôt.
Non, en fait, je voulais dire dans une cuvette parce que...
Ou dans un cul de sac.
Tu vas comprendre parce que le lieu dit dans lequel j'habitais, ça s'appelait Beau Siège.
Oh,
donc,
wow.
En fait, mon cerveau a fait, tu vois, c'est ça l'hyperactivité.
Ouais.
Il a fait tout de suite. Tout le monde rigole. J'habitais dans un cul. Ça sentait pas très bon, mon enfance. Et je m'en suis sortie.
J'étais un peu dans la merde, ouais. Mais quand même.
Putain, la métaphore est finalement très bien trouvée. Donc, je vais continuer là-dessus. Sur ce terrain, meuble. N'importe quoi.
Ouais, donc
bon, bref, en tout cas, j'habitais dans un lieu dit vraiment perdu. Il y avait des vaches, des chèvres, des chevaux autour de nous. Donc en fait, on était 4 enfants.
Okay. Vous êtes 4.
Ouais, on était 4, 3 filles, 1 garçon. Et en fait, mes parents n'étaient pas du tout de la région, pas du tout bourguignons. Les gens nous regardaient un peu d'un œil, c'est quoi ces gens, quoi? Ah, c'est les parigots, alors que j'étais née quand même dans cette région.
Ouais.
J'ai eu une enfance, je trouve, quand même assez sympathique, malgré le fait qu'on n'avait franchement pas de blé. Mais on partait en vacances une fois par an, à Mimise en plage, dans les Landes, justement. D'où,
D'où ton amour pour les Landes.
Mon amour pour les Landes.
Est-ce que t'étais timide, t'étais extravertie, t'étais comment?
Alors, je pense que je suis un paradoxe ambulant parce que j'ai une grande pudeur.
Ouais.
Je pense qu'on est tous très.
Paradoxal.
Bah, sinon, on vibre pas en fait. Pour que ça vibre, il faut qu'il y ait deux points opposés et qu'on les secoue, quoi, non? Enfin, j'imagine.
Oui,
je sais
bon,
pas si les gens vont comprendre tout ce que je dis. Hein.
Non, mais c'est pas grave.
Je n'ai pas pris de drogue ni de champignons, mais je m'y mets bientôt. On est pas là pour parler de ça, mais... voilà, et on était... Le truc, c'est que mes parents n'avaient pas beaucoup d'amis, donc on était souvent les uns sur les autres, dans une bulle. J'ai vécu dans une bulle, donc pas très, très... à connecter tout de suite avec les autres, ce qui a, en fait, élevé ma timidité. Par exemple, aller chercher le pain, de demander une baguette...
C'était un enfer, quoi.
C'était un enfer. Je me souviens de moments, surtout à l'adolescence, où je galérais vraiment, puis même avec l'amour, aller voir un garçon. Puis j'étais pas une petite fille très à l'aise avec son corps, j'avais un gros strabisme, donc les gens se moquaient beaucoup de moi à l'école. C'était « Ah, c'est moi que tu regardes ! Oh là, la bigleuse ! Ah, bah, oh, tes lunettes blanches, à Michel Polnareff !» Bon, c'était plutôt un compliment, mais je ne le savais pas à l'époque. Et voilà, bon...
Mais donc, t'as grandi quand même dans un environnement où il y avait quand même pas mal d'amour, d'écoute, de...
Ouais, on était plutôt... Enfin, c'était pas un amour très exprimé, mais on se sentait aimé, quoi.
Ouais.
Et puis, on était 4 mômes, quoi, donc ça aide. J'étais pas fille unique, une forêt perdue...
T'es arrivée à quel niveau? T'es arrivée à où? T'es la plus grande?
Je suis la première.
T'es la première?
Oui, c'est moi qui ai enfoncé toutes les portes avec ma tête.
Ok.
Parfois avec mon cul, tiens.
Ok. Et alors, est-ce que tu sais à quel moment tu t'es intéressée un peu justement à la chanson, au spectacle, tu vois, en tout cas, un univers
Bah, je crois que, en fait, ça a sauté une génération. Mon grand-père était accordéoniste.
Ouais.
Enfin, gardien de chèvre et accordéoniste. Et ma sœur Sandra va écouter ce podcast parce qu'elle t'adore.
Oh bah, merci beaucoup, Sandra.
Elle te like.
Oh, trop cool.
Donc, il ne faut pas que je dise trop de conneries, quand même.
Non, mais peut-être qu'elle pourra nous reprendre après ou nous renvoyer des messages.
Faux, il n'était pas gardien de chef.
Non, mais le plus important, tu sais, moi, ce que je travaille quand même en thérapie, c'est que je me rends compte que souvent, j'ai des souvenirs qui sont complètement biaisés. Oui. Mais on s'en fout parce que le plus important, c'est ton souvenir à toi.
Mais totalement. Voilà. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai.
Donc, Sandra, mollo, mollo. Hein.
On n'a pas tous la même perception.
Bah non, pas du tout.
De ce qu'on a vécu. C'est dingue, quoi.
Ouais, ouais.
Et j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, moi aussi.
Ouais.
Donc, mon grand-père s'appelait Giuseppe et il jouait de l'accordéon, mais vraiment bien. Il écrivait des partitions, tout ça, il donnait des cours. Et à 6 ans, l'âge auquel tu commences à apprendre à lire, bah, il a commencé à m'apprendre à lire la musique. Mais il était très sévère. Donc, quand je ne savais pas qu'une ronde, c'était équivalent à 4 noires, je peux te dire que...
Ouais.
Bon, ça ne vaut que pour la musique, hein, pas pour les femmes.
Oh waouh, tout le monde n'a pas la ref. Mais alors, est-ce que tu prenais du plaisir déjà à découvrir la musique?
Ouais, non, mais il y a toujours eu beaucoup de musique chez nous. On écoutait beaucoup de musique quand on fêtait Noël encore en famille, parce que c'était difficile de faire venir tout le monde dans ce beau siège. Mon cousin apportait toujours sa guitare. Il y avait une flûte traversière. Mon père jouait de la flûte indienne. On ne sait pas comment et par quel miracle. Il jouait de la guitare aussi. Mon grand-père apportait l'accordéon. Il y a toujours eu beaucoup de musique, même si on savait bien que c'était un métier quand même qui n'avait pas toujours rendu heureux mon grand-père. Donc, je pense que mes parents, ils avaient quand même envie qu'on fasse des études.
Ouais.
Résultat, mes deux sœurs sont danseuses, je suis chanteuse et mon frère est militaire.
Ah ouais, incroyable. Donc, mais alors du coup, donc en fait, rapidement, vers 6 ans, tu as découvert un peu la musique.
J'ai découvert ça, j'ai eu un petit clavier, je me souviens, vers 7 ans. Et en fait, comme mon père jouait beaucoup, ou en tout cas essayait d'apprendre les chansons de Brassens, et avec sa guitare, je me suis dit, moi pour mes 8 ans, je veux une guitare. Et j'ai eu ma première guitare... trois quarts. Non, j'ai commencé sur la sienne d'ailleurs, qui était beaucoup trop grande pour moi. Et j'ai commencé à prendre des petits cours avec les profs qui, à la campagne, se font rares quand même.
Ouais.
En pointillé, j'ai pris des cours de guitare classique. Et c'est comme ça que c'est rentré dans ma vie. Mais après, chanter...
Mais tu voulais pas être chanteuse à ce moment-là?
Je crois pas.
C'était pas un rêve d'enfant?
Je pense que je voulais dessiner. En fait, je dessinais pas mal. Bon, j'ai perdu évidemment mon coup de pinceau et de crayon. Mais j'aimais beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup faire des caricatures. Ma mère dessinait très bien aussi.
Okay.
Et elle s'amusait, quand on s'ennuyait les dimanches pluvieux, à nous dessiner des trucs pour nous occuper, quoi. Et je pense que ça m'a gagnée et qu'au début, je voulais être créatrice de BD ou dessinatrice de trucs pour les enfants, illustratrice pour les enfants ou ce genre de choses.
Et finalement, t'as préparé une licence d'anglais,
ouais,
c'est ça?
Rien à voir. Après, j'ai voulu être styliste. Après, j'ai voulu être animatrice radio.
Ouais, mais ça, c'est dans l'adolescence.
Ouais,
c'est tout ce que tu voulais. Ouais.
Et après, je savais déjà que j'aimais chanter et que j'aimais la musique. Et je chantais déjà un peu, hein, quand j'ai fait ma licence. J'ai fait un DUG. J'ai quitté au bout de la deuxième année de DUG pour faire de la musique, justement. Mais bon, sans que mes parents le sachent.
Ah!
Ouais.
Tu leur as caché ça.
J'essayais de passer des castings. J'allais à Paris. Je me suis fait avoir, il y avait des malfrats qui voulaient me faire monter dans leur voiture de luxe en me disant « Vous savez, mademoiselle, il va falloir faire des concessions. Hein. » Oui, alors
d'accord.
On comprend. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que contient le mot « concession »
ouais.
Voyons.
Mais donc, t'as commencé à faire de la musique en parallèle?
Ouais, en fait, je faisais partie d'un spectacle avec mes sœurs qui s'appelait « Les nuits du vieux château à Cône-sur-Loire, où je suis née ».
D'accord.
Et dans lequel, un jour, le professeur de danse qui nous chorégraphiait m'a entendu chanter. Et il m'a dit, ah bah tu sais quoi, l'année prochaine, dans le spectacle, on met du chant. Donc tu chanteras 5 chansons et peut-être qu'il y aura un duo de solistes dessus.
Mais t'avais quel âge là?
J'avais, je sais pas, 17-18 ans.
Ah ouais?
Et après, à 19 ans, je crois que j'ai eu un groupe qui s'appelait Vanille Fraise, juste avant la Starac.
Ok.
Ouais, je sais pas ce que je faisais, hein, parce que ça dépend à quelle saison, quoi. Parce qu'en été, je suis fraise, puisque je rougis avec le soleil. En hiver, je suis blanche comme un cul.
Et alors? Comment t'intègres la Star Academy? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête?
Qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi tu t'es dit, je vais faire ce truc-là?
Non, mais surtout que je ne connaissais pas bien l'émission, je ne regardais pas vraiment.
Ah ouais?
J'étais un peu sur autre chose, sur l'amour, sur justement ce groupe. Enfin, et je voulais faire une école de spectacle qui s'appelait à l'époque l'ESS, École supérieure du spectacle. Je pense que c'était une arnaque. Hein.
Ouais.
On est allé à Paris avec mes parents pour rencontrer le directeur de cette école et j'ai passé quelques essais. Et le mec m'a dit très bien, bah, elle sera prise. C'était hyper cher pour nous, on pouvait pas quoi. Mes parents, ils pouvaient vraiment pas me payer cette école.
Mais par contre, ils te soutenaient dans ton envie de.
Bah là, oui. Ouais. Mais je pense qu'ils étaient quand même un peu déçus que je continue pas les études parce que j'étais. J'étais pas mauvaise, hein. J'étais une très bonne élève, j'ai eu mon bac avec mention, je m'en sortais très bien. Donc j'aurais pu faire plein de trucs qui auraient permis à mes parents d'être rassurés et que j'ai un avenir un peu plus, peut-être un peu plus glorieux et épanoui que le leur. Quoi.
Et peut-être un avenir un peu plus certain que quand t'es dans le milieu de la musique.
Oui, c'est ça. Bon.
Podcast. La Starac, comment ça arrive ce truc-là ?
En fait, j'ai arrêté de travailler à la fac. J'ai commencé à danser, chanter. Ouais. À mettre de l'argent de côté pour faire cette école de spectacle. Et puis, mes amis, ils m'ont vu chanter, ils m'ont dit, mais attends, mais tu sais, cette émission, il faut que tu regardes parce que tu devrais la faire. Franchement, ça doit être pistonné. Les gens qui sont là-bas, à mon avis, c'est pas les gens comme toi, mais peut-être que tu peux te faire repérer et signer dans une major ou je ne sais quoi. Bon, on n'en sait rien. Franchement, je chantais pas du tout comme je chante maintenant. J'étais en recherche de... J'imitais plus les gens que je ne chantais avec ma véritable voix.
Je vois très bien.
Et du coup, j'étais complètement déconnectée de la réalité, je trouve, de ma vérité en tant que chanteuse. Et d'ailleurs, Starac m'a beaucoup aidée pour ça. Et du coup, c'est eux, en fait, qui m'ont dit...
C'est tes amis qui t'ont dit vraiment.
J'ai un caméscope, c'était encore des cassettes à l'époque.
Oui, bien sûr.
Et qui m'ont dit, vas-y, mets-toi dans ton jardin et présente-toi en 30 secondes et chante deux chansons avec des bandes, quoi.
Okay.
Donc, j'ai fait ça. Et à ma grande surprise, j'ai été retenue et on m'a dit, on voudrait vous entendre chanter deux autres chansons, peut-être danser, je ne me souviens plus.
Et donc là, tu devais venir sur place ou c'était toujours...
Non, il y avait encore un truc, je pense, il fallait remplir un dossier et chanter d'autres chansons, peut-être danser, montrer... me présenter encore plus.
Et à ce moment-là, comment ça se passe ? Parce que déjà, est-ce que tu te sens à l'aise ? Ok, c'est un univers nouveau, mais est-ce que tu te sens bien ? Ou alors tu te dis, putain, vraiment, c'est de la merde ce que je fais.
J'étais très partagée. Ah non, j'étais hyper partagée. Je me disais, mais putain, qu'est-ce que je fous là ? Ça, c'est la grande question. D'ailleurs, je me la pose encore. Hein. Quand j'arrive sur scène et que c'est plein et que, bon, on parle de ce sujet. Hein. Mais je me dis, qu'est-ce que je fous là ? Au secours ! Mais pourquoi je me fais mal comme ça ? Pourquoi est-ce que je me jette dans la fosse au lion alors que je préférerais être tranquille pépère à travailler chez moi, faire du macramé et puis le vendre sur Etsy, quoi.
Ouais. Et tu ferais un carton, hein, on en doute pas.
C'est sûr.
Mais donc là, quand tu passes les premiers essais, peut-être où tu dois refaire ces essais encore chez toi et machin.
Tout le monde est excité pour moi, en fait. Mes amis, même ma famille se prend au jeu.
Ah oui.
Je vois que l'œil de mon père commence à briller.
Alors, ce qui est vrai, ce qu'on a oublié de dire, c'est que donc, c'était la troisième saison, c'est
ça ?
Ouais. Faut dire quand même qu'à l'époque, la Star Academy, c'était quand même un énorme truc.
C'était énorme.
Comparé à maintenant, il y a quand même vachement de trucs. Moi, je trouve que la Star Academy est un truc très télé-réalité. Oui. Ça a toujours été un peu cet angle-là. Mais il y a plein d'animations, d'émissions qui sont très... on est habitué à ce genre de trucs. Alors qu'à l'époque, la Star Academy, je m'en souviens, hein, c'était un truc de ouf.
C'était énorme. Les gens se réunissaient le vendredi ou le samedi pour... pour se faire une soirée Starac, quoi.
Ouais.
Les gens étaient fous. Mais moi, je pensais pas que ce serait aussi fou. Et comme je connaissais pas bien l'émission, au début, j'y suis allée. Après, j'ai compris parce que j'ai regardé, j'ai bien vu que c'était un engouement et surtout tout ce qu'il fallait faire, quoi. Tout ce qu'il fallait être capable de faire, de livrer. Et puis, j'avais quand même pas confiance en moi. J'étais une jeune fille pleine de doutes.
T'avais quel âge ?
En fait, j'avais 21 ans, mais quand tu vis à la campagne, t'as 5 ans déjà.
T'as 50 ans déjà, quoi.
Non, aussi.
Non, c'est plutôt l'inverse.
T'as 50 ans déjà, mais t'as aussi t'as un train de retard par rapport aux gens qui vivent déjà à Paris, qui sont dans la. Et aussi, qui ont eu des parents qui les ont jetés. Voilà. Moi, mes parents ne nous ont pas vraiment. Je suis désolée si vous écoutez ce podcast, mais ne nous ont pas aidés à sociabiliser.
Ils ne vous ont pas porté là-dedans, mais ils vous ont porté autrement et ailleurs.
Exactement. Et bon, moi, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. On s'en sort tous d'ailleurs plutôt pas mal. Et on a développé notre sociabilité bien plus tard.
Mais alors,
passes de beau siège dans Lyon à un plateau avec 10 millions de personnes qui te regardent.
C'est ça, c'est fou. C'est un paradoxe énorme. Et du coup, quand t'intègres la Star Academy, est-ce que tu te sens quand même à ta place dans le sens où tu dis, putain, vraiment, pas la télé, on oublie tout ce truc-là, mais de je suis en train de travailler ce que j'aime, la musique, je prends des cours et machin. Ou alors, oh là là, mais il y a d'autres gens qui sont vraiment mieux que moi. Ou alors vraiment je trouve que je suis hyper bonne comparée aux autres.
Ouh là là, je me suis jamais dit ça. Oh, mais jamais. Alors au début, le premier prime, j'étais fière quand même, je me suis dit putain, incroyable, j'hallucine quand elle m'a appelé Nathalie André pour me dire t'es prise. J'ai dit non. en fait. Non, mais un non. réflexe. J'ai dit non. J'ai dit ah non. Oh, ah bah non, 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 moi je peux pas faire ça, c'est pas possible. Vous savez qui je suis, d'où je viens, quoi. J'étais, mais.
J'ai habité dans un cul quand même, rappelez-vous.
Ah oh mon Dieu, mais c'était. J'ai eu une sueur froide, quoi.
Ouais, je comprends.
Une chape de plomb glacé qui s'est abattue sur mes épaules quand elle m'a annoncé.
Mais parce que tu as ressenti quoi?
Je sais pas. En fait, je pense que quand j'ai un choc émotionnel, je perds la réalité. Enfin, je sais pas, je pense que c'est un moyen de se protéger.
Peut-être.
Et ma mémoire efface beaucoup de choses comme ça, malheureusement. Donc oui, il faut aller au fond des choses, d'où ce que je fais samedi. Mmh. Oui, je travaille sur moi. On en parlait hors caméra, hors microphones.
Mais donc, voilà, t'as senti un truc
senti,
comme de la pression?
Comme si je mourais debout.
C'est comme ah, mais si je, non, mais je vois, j'ai complètement
ouais,
le truc.
Voilà. Comme si tu quittais ton corps, en fait. Mais ouais, vraiment, voilà. C'est vraiment une sensation de je ne suis plus là, je ne veux plus être là, je ne veux plus exister.
Parce
non,
que
non,
j'ai...
ce n'est pas
parce...
moi.
Mais c'est quoi, c'est ta peur?
Je pense que ouais, j'avais une énorme trouille.
Est-ce que tu sais
maintenant? Grande surprise aussi.
Est-ce que tu sais maintenant, avec le recul, de quoi tu avais peur?
Bah, oh là là, peut-être de ne pas être à la hauteur, peut-être de. Ouais, je sais pas. Non, c'est une bonne question.
Ok, bah bosse ça samedi
qui
arrive.
Je bossais dessus, mais je pense qu'effectivement, j'ai un problème de perfectionnisme qui fait que parfois, je ne fais pas les choses parce que je voudrais qu'elles soient parfaites.
Eh oui.
Et donc, je n'y vais pas.
Ah, oh là là. Je connais bien
voilà,
ça.
Voilà, donc tu vois où j'en suis. Hein,
ah ouais. Mais alors, du coup, tu remportes...
J'ai pas fait d'album depuis presque 10 ans.
C'est vrai?
Parce que je pense que j'y mets beaucoup de cœur et je recule pour mieux sauter. Mmh. Et je pense que c'est à cause de ce souci de vouloir faire mieux encore, de vouloir encore plus être inspirée, de vouloir me surprendre encore plus. Mmh. Et en fait, maintenant, je réalise que ça commence à faire longtemps. Mmh. Bon, après, j'ai fait plein d'autres choses, hein, mais me tiennent moins à cœur, en fait.
Oui, mais parce qu'il y a peut-être mon implication personnelle, du coup, tu arrives ouais, plus ça. À les faire. Alors, pour revenir juste à la Star Academy, donc tu gagnes la troisième.
Donc, je me demande ce que je fous là, évidemment, ouais. Pendant 4 mois. Le premier prime, j'assure, parce que je suis tellement contente d'être là que le plaisir prend le dessus. Mmh. Et d'ailleurs, ça se voit sur les images. Tous les autres primes, j'ai vécu un enfer, à part le dernier où je me disais libérée, délivrée.
Ah ouais.
Ah ouais? Ah ouais, ouais, c'était. Enfin, c'est honteux de dire ça parce qu'il y a des gens qui m'ont. Enfin, non, c'est pas honteux, c'est la vie. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenue. Et d'ailleurs, si j'ai tenu le coup, c'est grâce aux personnes qui me soutenaient, hein, les ouais. personnes proches, ma famille, mes amis, les gens qui avaient sur place, Michal, par exemple, Lucas, Pierre, enfin, les gens qui étaient près de moi au sein de.
Attends, il y avait qui dans cette saison?
Il y avait Sophia et Saïdi.
Ah oui, j'ai tourné avec elle il n'y a pas très longtemps.
Ouais, bah, tu vois, Sophia, elle a développé.
Ah bah, maintenant, elle est comédienne à fond.
C'est fou, non, ouais, non, mais ouais. Après, on aurait pu s'en douter parce que c'est une bosseuse de dingue. Et,
ah ouais,
et tu
putain,
vois,
franchement.
Elle et moi, on avait des parcours, je pense, différents, même si je pense qu'elle doutait, évidemment, comme nous tous. C'est normal de douter dans ce genre de. Quand t'es projeté comme ça sur le devant de la scène, t'as beau avoir des parents qui t'ont toujours poussé, dit que t'étais la meilleure, qui t'ont plongé plutôt dans des situations qui te permettent d'être bien en public. Je pense qu'on était... les gens n'arrêtaient pas de nous comparer tous, ouais. Et notamment les filles, les garçons, et les garçons, les filles. Enfin, et pas les garçons, les filles, quoi. C'était l'époque, quoi. Ouais. C'était... Ou les rivales.
Ouais.
Mais d'ailleurs, c'est chiant, hein, ce truc-là, hein, parce que parfois, il n'y a rien.
Et, ouais, c'est fatiguant.
Enfin, bon, voilà, chacun partait avec ses propres doutes, mais moi, j'avais l'impression que c'était une erreur de casting, quoi.
Eh ouais.
Qu'il y avait une erreur de casting, que...
Mais une erreur de casting parce que...
Parce que je voyais que les autres étaient... Enfin, je sais pas, il y avait des gens qui avaient peut-être eu moins de chance que moi dans la vie aussi, mais qui avaient des voix de dingue, je trouvais, ou qui dansaient comme des fous.
Et donc toi, à côté de ça...
Il y avait des
ça,
gens qui avaient plus de chance dans la vie que moi à la base, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, avoir plus de chance dans la vie? En fait, à l'époque, j'étais encore... Je pense il fallait que j'apprenne encore... Que j'en mange encore un peu de la vie, quoi, pour comprendre les choses.
Ouais.
Et en fait, à chaque prime, je me disais, mais attends, c'est pas possible, je vais être éliminée. Comment ça se fait que les gens votent pour moi? Comment ça se fait déjà que je reste? Parce que j'étais en sous-présence. Tu vois, c'est comme si je vivais à côté de mes pompes, tellement j'avais peur, tellement je comprenais pas pourquoi j'étais là. Et en fait, j'étais parfois très, très là. Donc, c'est pour ça, peut-être que les gens croyaient en moi. Et donc, d'un seul coup, je m'incarnais et ça marchait. Et encore avec une voix qui n'était pas la mienne, parce que j'avais pas compris qu'il fallait que j'arrête d'imiter les gens et de chanter trop aigu, alors que je chantais en médium, un peu plus comme maintenant, quoi. Merci d'ailleurs, Benjamin Biolay, parce que. Il m'a dit, continue d'écrire tes chansons parce que, en fait, quand t'écris toi, tu chantes avec ta vraie voix et tu chantes pas avec la voix de France Gall, qui n'est pas faite pour tes cordes vocales. Et en fait, je suis arrivée petit à petit jusqu'à la fin. Le moment le pire pour moi, c'est quand justement je me suis retrouvée en face de Sophia, que je trouvais extraordinaire.
Vous étiez en finale toutes les deux ?
En finale fille. En demi-finale, pardon.
D'accord.
Ouais, je suis arrivée en demi-finale face à Sophia. Et je l'écoutais chanter, je la voyais danser, évoluer. Et je la trouvais extraordinaire. Je savais, c'est terrible dans ce genre d'émission, mais je savais que les profs étaient de mon avis. Et puis c'était logique, quoi. Mais les gens avaient peut-être, je sais pas, plus d'affection pour moi qui était un peu dans les petits souliers, quoi. Et je voulais pas, en fait, constater, confirmer qu'ils allaient voter pour moi et que cette fille pleine de talent n'allait pas rester. Mmh. Et donc, j'ai dit à la prod, ça, je sais pas si les gens le savent, j'ai dit à la prod la veille ou l'avant-veille de la demi-finale, je fais mes valises, je me barre.
Ah ouais.
Laissez-la gagner, parce que moi, je vais pas supporter ça.
J'ai pas le niveau ou c'était...
Bah, je sais pas ma place, en fait. Je ferai ma vie d'artiste autrement. Maintenant, les gens me connaissent. Je flippais, en fait. Je sentais, en plus, que c'était dangereux pour moi d'arriver au bout, quoi, que j'allais galérer après pour... peut-être pour faire ce que je voulais, ou je commençais à comprendre, en fait, les truchements, les mécanismes de ce genre de moissonneuse-batteuse, quoi, parce que c'est vraiment ça, cette émission.
Et justement, quand tu gagnes la Star Academy, comment tu le sens ? Est-ce que tu as l'impression que tu n'es pas du tout à ta place ? Ou alors tu arrives quand même un peu à accueillir le moment de « Ok, en fait, si j'en suis là, c'est parce que j'ai du talent, parce que les gens croient en moi. » Ou alors tu te sens complètement à côté de tes pompes. Comment tu as vécu, en fait, ce truc-là ?
Je l'ai vécu comme, encore une fois, une perte de conscience. Le moment où Nikos dit que c'est moi, je m'en souviens pas, parce que j'ai revu les images, mais je m'en souviens pas.
Ah, t'étais pas là, quoi.
J'étais pas là, ouais. J'ai quitté mon corps, encore une fois. Protège-toi, quitte ton corps. Et hop, la meuf, elle part dans l'espace, quoi.
En fait, quand t'avais besoin de te protéger, t'occultais vachement ce qui pouvait se passer.
Je pense que c'est un mécanisme de protection qui n'arrive que dans des moments de grande intensité. Mais ouais. Que ce soit quelque chose de très violent et très triste ou quelque chose de très joyeux. Hein. Ouais, ça marche pour tout, en fait.
Donc, comment tu vis
ça ? Et donc, en fait, je me rends compte, à un moment, je me ressaisis, je me réincarne. Là, j'ai Elton John qui me prend dans ses bras et qui me dit « A star is born ». Je repars. non, mais « I'm still standing ». Je me dis « Non, I'm a rocket man ». C'était vraiment ça. Et en fait, finalement, après, t'es prise par les gens qui t'amènent je sais pas où, il faut que tu fasses des photos, des machins. Et là, je reviens à moi-même et mon geste, en fait, témoigne du fait que je ne voulais pas garder cette victoire pour moi et que j'estimais peut-être que je ne devais pas la garder pour moi. Je réfléchis, j'avais déjà réfléchi de toute façon. Je réfléchis, je me dis, attends, les pourcentages sont tellement proches, les gens nous aiment autant l'un que l'autre, Michel et moi, qui étaient en finale avec moi, que est-ce qu'il n'est pas possible de diviser ce contrat en deux, et non pas que je lui file un chèque de 500 000 euros, ce que tout le monde pense, mais en fait, j'ai fait diviser le contrat en deux par Universal, TF1, Endemol et tous les gens qui participaient à ce grand concours. Et en fait, on a fait une réunion rapide au sommet dans une petite loge où je sais plus où, là on tournait quoi. Et on a annoncé aux gens qu'en fait on était deux à avoir gagné et que j'avais partagé mon prix avec Michel et que qu'on allait refaire le contrat pendant la nuit et qu'on allait le signer tous les deux, ce qu'on a fait.
Et pourquoi tu as fait ça ?
Je pense en grande partie parce que je ne voulais pas porter ce poids toute seule.
C'était trop pour toi.
Ah, c'était trop. C'était trop pour moi. Et puis, en plus, j'avais conscience que les gens avaient voté. J'ai dû gagner à 51 et lui à 49. Donc, j'avais aussi cette conscience-là du public qui pouvait être à moitié déçu. Si je faisais ça, quelque part, c'était pas si idiot. Mmh. Je gardais aussi la sympathie du public de Michel qui pouvait être aussi le mien. Et d'ailleurs, c'était le cas. Et puis aussi, partager un tas de moments avec Michel en promo, puisque nous étions
un très bon ami,
deux gagnants, quoi.
Ouais.
Et puis, ça me déchargeait du poids de cette victoire que j'avais du mal à assumer.
Seule.
Parce que je me disais, non, mais c'est fou que c'est moi qui ai gagné.
Tu ne te sentais pas légitime, quoi.
Je ne me sentais pas légitime. Je me sentais encore un oisillon tombé du nid. Mais j'avais quand même du respect pour les gens qui avaient voté et pour les gens qui m'avaient soutenue pour cet épisode de 4 mois qui quand même avait été ça a été un tournant dans ma vie. Voilà, donc il fallait que j'aie de la gratitude.
Il y a aucun moment tu t'es dit c'est mérité. Il y a aucun moment où tu t'es dit ouais en fait je suis d'accord et oui je le mérite et oui j'ai bossé et oui j'ai du talent pour.
En fait, il y a pas longtemps.
Ah ouais.
En fait, j'ai dû faire tout le chemin en allant à ma rencontre pour, par exemple, me mettre à écrire des chansons. J'avais jamais écrit de chansons avant. J'écrivais des nouvelles, j'écrivais des, je sais pas, des poèmes. Je jouais de la guitare classique, mais je n'avais jamais composé de chansons. Et en fait, le fait d'avoir fait cette émission m'a menée à ça, parce que je me suis dit, je veux pas être un produit. Je sais que j'ai des outils. Donc, peut-être que je peux m'en servir pour... Et ça m'a mené à moi, ça m'a mené à des choix et à des rencontres comme celle avec Benjamin Biolay, qui était aussi une surprise. Je me suis dit, incroyable que ce mec s'intéresse à moi, quoi, et qu'il décide qu'il va réaliser mon disque. Je me suis dit, c'est pas possible, je suis en train de rêver. Peut-être qu'il a dit ça parce qu'il me trouve sympathique. et en fait, non, c'est arrivé. Et puis, il m'a poussée aussi à aller à la rencontre de moi en tant qu'auteur-compositeur. Et en fait, petit à petit, ça m'a rempli aussi de qui j'étais en tant que femme et en tant qu'artiste.
Et oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est que je pense que tu as dû te découvrir. Enfin, tu arrives dans ce bain-là que tu connais pas.
Ouais.
Tu arrives à la Star Academy, tu n'as jamais regardé cette émission. Tu viens d'un petit bled un peu paumé et là, des milliers de personnes te regardent. Tu gagnes cette émission, tu dis « Ok, on va splitter le contrat parce que je ne me sens pas légitime d'avoir tout toute seule. » Et donc, je comprends, enfin, c'est pas
rien. En fait, j'avais peur qu'ils votent pour moi. Parce que j'étais fragile, parce que je venais d'un milieu...
La pauvre petite fille qu'on a envie de sauver,
c'est
genre...
C'est ça, parce que c'est terrible à dire, mais parce que je ressemblais à la plupart d'entre eux. Parce que c'est le rêve qu'on se dit... Bah, en fait, peut-être qu'ils se disaient, bah, si elle a pu le faire alors qu'elle vient vraiment de rien, qu'elle n'est pas pistonnée, qu'elle n'a pas non plus toutes les cartes en main à la base...
Et bah, nous aussi,
ça veut dire que quelque part, on touche du doigt un rêve qu'on pourrait réaliser.
Et en même temps, pourquoi pas? Je trouve que c'est assez sain, enfin sain ou pas sain, j'en sais rien, mais je comprends qu'on puisse aussi se retrouver dans l'autre.
Moi aussi, hein, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais du mal à le digérer et je me suis dit, je leur dois d'aller vers moi et de leur offrir quelque chose de profond et pas seulement d'être quelqu'un de connu ou reconnu parce que je suis passée à la télé pendant 4 mois. Et donc, je me suis mise à travailler. Quoi.
Je me permets de te couper, tu leur dois, mais tu te dois à ça aussi à toi.
Oui, aussi, c'est vrai.
C'est quand même un truc
tu vois que je l'ai bien, le syndrome de l'imposteur, quand même.
Voilà. Podcast. Et justement, après, comment ça se passe? Parce que tu fais des dates, on sait à quel point c'est difficile. Enfin, tu vends un album, enfin, tu fais cet album-là, tu fais
le
des
premier,
dates.
Ouais. Comment
ça se passe? Parce que moi, j'ai vécu pas du tout la Star Academy, j'ai jamais vécu ce genre d'émission, mais quand même, de faire un album, de faire des dates, tu sais pas si c'est rempli, tu sais pas combien c'est vendu. Il y a un truc, je trouve...
C'est trop dur.
C'est très difficile. Mmh. Comment ça se passe? Comment t'arrives à l'accepter? Comment tu le gères, en fait?
Eh ben déjà, je gère pas le premier album. Pour moi, je mets... c'est terrible, hein, parce que beaucoup de gens l'ont acheté. Je ne fais pas de tournée avec ce premier album parce que je n'ai pas vraiment d'affinité avec lui, en fait, à part quelques chansons, une qui s'appelle « Je te dis non ». D'ailleurs, c'est Catherine Breillat qui avait fait le clip. Donc ça, encore une fois, c'est un choix. C'était le début de mes choix, en fait, tout ça. Mmh. Et de mes choix personnels. Mmh. Et j'ai pas voulu tourner avec ce disque-là et... Et quand les gens me disent « on adore ton premier album », c'est celui qui me ressemble le moins, en fait. Donc,
c'est celui que Benjamin Biolay a réalisé?
Non, c'était le deuxième.
D'accord.
Donc cet album s'appelait Élodie Frégé, et dedans, il y avait cette chanson qui s'appelait « De l'eau », parce que j'avais beaucoup pleuré pendant l'émission, et donc « De l'eau pour noyer chagrins et peines ». C'était Emmanuelle Cosso qui avait fait le texte, elle était mariée à Cadmerad à l'époque, elle était adorable. Mais à vrai dire...
Tu t'y retrouvais pas,
quoi. Je m'y retrouvais pas, en fait, profondément. En fait, je sentais que ça vibrait pas comme il fallait, quoi. Donc, j'ai dit à Thierry Su que je...
T'étais avec Thierry?
Ouais. On a beaucoup de points communs, c'est ça? Et je lui ai dit, je préfère pas tourner avec ce disque. Je tournerai avec le prochain. Mm. J'ai commencé à écrire des chansons. Et puis, j'ai rencontré Benjamin. Et puis, finalement, on a tourné qu'avec le deuxième. Et beaucoup de gens pensent que c'est le premier, celui que j'ai fait avec Benjamin.
C'est vrai, moi je pensais que c'était le premier.
Bah tu sais quoi, ça m'arrange.
Bah tant mieux. Mais alors comment tu le vis justement, cette tournée, la vente de disques? Est-ce que encore, parce que là donc c'est ton deuxième album.
Ouais.
Est-ce que là tu commences à trouver un peu plus une posture de « j'ai le droit, je suis légitime » ou c'est toujours quelque chose qui est compliqué pour toi?
Alors, la scène, moi, je me suis dit au tout début que je serais comme Françoise Hardy, que je ferais très peu de scènes parce que j'étais tellement traqueuse.
Mmh.
C'était un enfer de monter sur scène. En plus, j'avais décidé de jouer de la guitare, mes trucs de meuf qui avait pris la guitare classique, tout en arpège, avec les doigts qui transpirent, les ongles qui se cassent. Enfin bon, j'ai eu des moments de stress, mais j'avoue que dès la troisième chanson, ça se posait. Et donc, à partir de là, je commençais à prendre du plaisir. Mais c'est vrai que les premiers concerts, c'était l'enfer. Les premières chansons des concerts et les premiers concerts, je me disais, mais je vais jamais arriver au bout, quoi. Parce que
tu prenais pas de plaisir.
En fait, pendant assez longtemps, je prenais pas de plaisir pendant une petite partie du concert. Et après, soutenu par les musiciens, avec le public. En fait, un chanteur, c'est quelqu'un qui est seul au milieu de deux groupes de personnes. Un groupe de personnes qui les soutient musicalement et un groupe de personnes qui les soutient émotionnellement. Et donc, toi, t'es quand même toujours tout seul, en fait, ouais. En vrai. Est-ce que tu t'es les Brigitte.
Oui, c'est ça. Est-ce que tu t'es demandé à un moment...
Ou les Beatles.
Ou les Beatles, ou Queen, ou 12 milliards de groupes. Est-ce que tu t'es posé à un moment la question de pourquoi je fais ce métier si j'ai... Enfin, j'imagine que tu t'es posé la question,
mais... Oui, tu sais qu'à chaque fois que je montais sur scène, même encore maintenant, ça peut m'arriver... quand c'est mon projet, tellement ça me tient à cœur et tellement je flippe de ne pas être à la hauteur ou de décevoir les gens, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi tu t'infliges ça, Élodie?
C'est ça.
Ah non, mais c'est...
Et t'as pas la réponse?
J'ai pas la réponse, mais à la fin du spectacle, je suis la femme et l'artiste la plus heureuse du monde. Donc, c'est fou quand même. C'est un grand écart, quoi.
Il y a une dichotomie énorme.
Ça fait mal aux jambes.
Moi, quand je faisais de la scène aussi, quand j'allais monter sur scène, c'était un enfer. Moi, j'ai jamais bu d'alcool vraiment, mais sauf que j'avais besoin de boire un verre, un truc cul sec, pour me chauffer un peu. Et les premières chansons, c'était un enfer pour moi. Ouais. Je chantais pas tout à fait juste, j'étais pas bien.
Tu as ce truc-là de boire un coup avant de monter sur scène?
Bah, je faisais ça, ouais. C'était une manière pour moi. Là, dis-toi, demain, bon, cet épisode sera déjà en ligne.
Demain,
je vais à Toulouse devant 2200 personnes. Faire un pseudo-sketch de 10 minutes, j'ai jamais fait ça de ma vie.
C'est la première fois?
Ouais.
Genre, tu vas faire du stand-up, quoi.
Genre, tu vois. Genre, c'est pas un truc d'humour non-stop.
J'ai des potes à Toulouse, si tu veux, je te les envoie, ils mettront l'ambiance. Hein.
Non, c'est complet, donc ça va. Mais en plus, c'est pas pour moi. Enfin, bref. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce flip quand tu montes sur scène, mais quand tu sors de scène, c'est putain, quand est-ce qu'on commence?
Ah ouais, exactement.
Il y a un truc de drogue, de waouh, j'ai pris une.
C'est vraiment
un shot. Mais c'est vrai que c'est paradoxal. Et il y a beaucoup d'artistes, tu vois, qui sont dans cette position-là de putain, pourquoi je m'inflige ça et je suis pas bon et je suis pas bonne et mes chansons, mes textes, ils sont nuls et machin.
Ouais.
Et pourtant, t'arrives pas à quitter ce milieu-là parce que je pense que ça. Et ce qu'on disait en off, c'est que toi, t'arrives très facilement à faire des trucs que t'incarnes pas dans le sens où tu fais des reprises, tu viens, tu fais des shows, c'est cool, mais dès qu'il s'agit de toi, de donner de toi...
Mais c'est ça.
Parce qu'on a l'impression, peut-être que t'as la sensation qu'on va te juger vraiment là.
J'ai l'impression d'être une tomate qu'on pèle.
Ouais, je vois très bien. Je vois très bien. On a tous l'image de la tomate qu'on pèle, ou de l'orange qu'on pèle.
Oui, bah un truc... et tu te liquéfies, parce que c'est un peu juteux, ces fruits-là. C'est un fruit, la tomate, hein.
C'est considéré comme un fruit, effectivement. Mais moi, personnellement, je le mange avec du salé, comme une tomate mozzarella, par exemple.
Moi aussi, oh, j'ai faim.
Alors, on va faire une petite pause. Il y a donc effectivement un dé à côté de toi, avec sur chaque face, non pas des chiffres, mais des couleurs. Il y a plusieurs couleurs, rouge, vert, jaune, bleu, orange et violet. Et chaque couleur correspond à une émotion.
Ah.
Et chaque émotion est reliée à une question intime. Donc, je te propose de lancer le dé.
Ah bah, génial.
Et ensuite, tu vas te mettre nu. Non, c'est toujours faux.
Ah d'accord.
Mais vraiment, j'aimerais beaucoup.
Tu m'as épilé.
Mais c'est pas grave.
Pardon, je parle pas dans le micro. Alors, je lance.
Vas-y, lance. Nous sommes tombés sur rouge. C'est des questions parfois très légères qui n'ont rien à voir avec tout ça. Donc là, c'est quel est le plus gros râteau que tu te sois pris?
Eh ben, c'est le premier râteau de ma vie. C'était un garçon que j'embrasse tendrement parce qu'on est toujours amis. Ah, mais l'histoire est folle, j'adore, je suis trop contente de... Oh, non, faut pas que je dise son nom. J'ai failli dire son nom, mon Dieu.
C'est pas grave, ça sera coupé.
En tout cas, il s'appelait Alexandre K, avec un K. J'étais en cinquième, je crois, et il a fallu que je lui dise que je l'aimais. Et j'étais franchement une adolescente ingrate. J'étais grande, blanche comme une asperge. Ma couleur de cheveux naturelle, c'est plutôt gris, hein, cendre. J'avais une frange énorme sur des lunettes de Michel Polnareff. J'avais un œil dans un coin, l'autre dans l'autre. Je m'habillais comme un sac.
J'ai envie de te faire des câlins avec de ta petite description. J'ai envie de te faire des petits câlins, quoi. Je trouve ça trop mignon.
Non, mais j'étais tellement mal dans ma peau. Je me mettais dans des pulls immenses. J'ai arrêté de manger à partir de la quatrième parce que j'étais persuadée d'être dégueulasse physiquement. Non, mais c'est.
Ah ouais.
Bah oui, je faisais de la danse classique en même temps, ça n'aide pas ce grand miroir avec toutes ces autres filles dedans. Et en fait, bah, évidemment, aucun garçon ne s'intéressait à moi, sauf ceux qui avaient envie que je fasse leurs devoirs pour eux, parce que j'étais bonne élève, ou ceux qui voulaient que je leur présente ma petite sœur Christelle, qui était une bombe et qui l'est toujours d'ailleurs. Mmh. Et c'est fou, parce qu'on est quand même des mêmes parents, mais alors on était aux opposés, je trouve, au niveau du... Elle était mate de peau, elle était magnifique, elle commençait déjà à avoir des seins, alors que moi, j'étais plate comme une limande, et j'avais des cuisses de on ne sait pas, je faisais peut-être du lancer de marteau dans une autre vie, quoi. Et donc, je ne comprenais pas ce corps, et personne ne le comprenait. Donc, ce garçon, Alexandre, était charmant, un grand blond qui s'habillait toujours en noir, avec des grands yeux bleus, d'origine polonaise, encore un. Michel, c'est pour toi. Et en fait, je sais pas, je commençais à être un peu... je m'intéressais un peu aux garçons. Et puis un jour, je me suis dit, bon, à la fin du cours de sport, vu que j'ai pas mes lunettes en sport, il va voir mes yeux. Bon, je louche pas trop en ce moment, je suis pas trop fatiguée. Donc, il va voir mes yeux, je vais lui dire que je l'aime, quoi. Oh, je suis arrivée vers lui.
Ça devait être dur déjà à faire.
Ah, c'était tellement dur, j'étais rouge comme une pivoine. Moi, bon, j'étais pas blanche. C'était plus l'asperge, c'était la tomate cette fois.
Okay.
Pourquoi je parle que de nourriture ?
Mais je sais pas, c'est vrai. Mais vu que là, t'es dans un truc où tu dois manger beaucoup de légumes, peut-être que du coup, t'es très...
C'est ça, je suis focalisée sur les vegetables. Et je vais le voir à la fin du cours de hand. Évidemment, il m'avait mis dans les gaules, donc j'étais échevelée, je m'étais pris des balles dans la gueule. En plus, les balles de handball, c'est quoi ? Ça sert à quoi, ces trucs ? Pourquoi ? C'est hyper rigide. Et tout petit, comme ça, tu te dis, mais c'est des boulets de canon, en fait. Ils ont inventé un nouveau truc. Il n'y a plus de guerre, mais ils ont inventé le hand, quoi.
Et
tu mets une meuf un peu grande, un peu pas bien, quoi, tu vois. Elle a des lunettes, alors il faut les enlever. Bon, bref. Et donc, je vais le voir. J'arrive à le choper. Je dis, Alexandre, Kiki, on l'appelait.
Kiki ?
Ouais, parce que son nom de famille commençait par un K. Il faut que je te dise un truc, il faut que je te dise un truc. Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Il rangeait les balles. Je lui dis... il me dit, bah quoi, vas-y, dis-moi. Et il était gentil, hein. Mais je lui dis, bah, en fait, je crois que je t'aime. Et je deviens, mais je manque de tomber dans les pommes. Pareil, je quitte mon corps. Mmh. Et lui aussi.
Okay.
Il s'en va.
Okay.
Il quitte le plateau, mais sans autre forme de procès, quoi. C'est-à-dire que il me dit il s'en va.
Et t'as pas répondu oui ou non, j'ai moi aussi ou non.
Et après, j'étais trop mal. J'ai jamais eu de réponse. Et puis il y a eu plusieurs épisodes comme ça. Hein.
Mais vu que c'est resté ton ami,
oui.
Est-ce que vous avez eu une histoire après ?
Eh ben oui.
Eh ben voilà. Tu vois, finalement, comme quoi.
Non, mais c'est fou parce que, en fait, ça m'a donné du courage. Je me suis dit, attends, tu vas pas rester comme ça. L'année d'après, c'était la quatrième. Le corps change vachement à cette époque-là, et pour les hommes et pour les femmes. Et bon, ça n'a pas été facile pour moi de changer. Mais à la fin de l'année de quatrième, je commençais à comprendre, en fait, comment m'habiller un peu mieux. Peut-être me faire quelques mèches, mettre un peu de mascara, enlever mes lunettes. Bon, en quatrième, j'ai demandé un cadeau à mes parents. De porter des lentilles de contact. Mmh. Parce que franchement, ça avait été tellement là. Entre... Bah là, d'ailleurs, je pense que je suis fatiguée, donc je dois loucher un petit peu.
Pas du tout. Pas du tout.
Mais c'est tellement rien à côté de l'époque pendant laquelle je louchais.
Et maintenant, tu portes encore des lentilles.
En fait, j'ai arrêté. Figure-toi que le corps travaille par lui-même quand tu l'as fait travailler avec l'orthopsie et des lunettes. En fait, il sait quoi faire. Et si c'est comme les cheveux, en fait. Quand tu les laves pas pendant...
On en parlait avant.
Non, mais vraiment, ton corps, il est... C'est comme la peau, en fait, si tu mets
elle
trop de...
Elle s'habitue petit à petit.
Ouais, voilà, en fait, elle est... tout a une utilité.
Une mémoire sensorielle.
Ouais.
Bon, d'accord, ok.
Ouais, voilà.
Ok. Est-ce que tu peux tirer le dé une autre fois ? Bleu.
Bleu comme le blues.
Est-ce que tu as déjà volé quelque chose ?
Oui, bien sûr.
On dit oui comme si c'était normal, mais tout le monde.
L'orange.
L'orange du marchand.
C'est moi qui l'avais volé.
C'est toi, mais putain, mais elle est où cette orange maintenant ? Elle en est où, putain ? Est-ce que tu l'as mangée ou pas ?
C'est fou parce qu'on a un fil conducteur, en fait. Tu vois, on a parlé d'orange et de tomate juste
tu
avant, quoi. Donc,
exactement.
Mais peut-être que ce sera coupé. Bah oui, ça se coupe aussi.
Oui, ça se coupe aussi.
Mon Dieu.
Mais donc, t'as déjà volé
J'ai volé, je me souviens, la première fois que j'ai volé, ma mère ne voulait pas m'acheter. J'avais 8 ans, hein. Elle ne voulait pas m'acheter un paquet de chewing-gum. J'avais déjà un fort appétit pour les choses sucrées et salées. Elle ne voulait pas m'acheter un paquet de chewing-gum à la fraise ou au citron, je crois, qu'il y avait à la caisse. Et j'avais un manteau, tu sais, un manteau avec une capuche avec la fourrure, là.
Ouais.
Rose, immonde, évidemment. Ça n'arrangeait pas mon cas. Plus les lunettes, plus la frange, enfin bon, bref. Et en fait, je me suis dit... Bah, personne ne va me voir. Je vais mettre c'était 4 petits paquets dans un truc en plastique. Je vais le mettre dans ma poche. Et je l'ai fait. Et je suis arrivée à la maison, mais trop contente de moi. Mais vraiment, mais... Oh ! Et donc, je me suis mise sur la balançoire dans la forêt, dans le terrain dans lequel on habitait. sur la balançoire et j'ai commencé à mâcher un chewing-gum, deux chewing-gum, trois chewing-gum, à m'en faire péter les joues. À un moment, ma mère arrive, elle me dit « Élodie, qu'est-ce que t'as là ?» Je lui dis « Eh ben, je les ai finalement, je les ai !» Et elle me dit « Attention, hein, je vais appeler la police !» Je vais appeler les gendarmes. Ça m'a marqué,
ça,
quoi. J'ai recraché tout de suite, moi, ma boulette de chewing-gum au citron ou à la fraîche, je sais plus. Et j'étais hyper mal. J'étais là, bah quoi ? Non, tu vas pas les appeler, non ? Mais limite, j'ai pleuré, quoi. Et bon, ça m'a pas servi de leçon parce que j'ai revolé à l'adolescence du maquillage, des agrafeuses, des trucs.
Ouais, mais j'ai l'impression qu'on a tous fait
ça. Mais par défi, pour faire chier, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont volé aussi par manque d'argent. Ouais. Moi, j'ai volé par défi parce que c'était aussi une manière de montrer aux plus grands quand j'étais en cinquième, montrer à ceux des quatrièmes, je suis aussi grande mentalement. Ouais.
Par contre, j'ai jamais volé le mec d'une de mes sœurs ou de mes copines.
Est-ce que j'ai fait ça? J'ai jamais fait ça.
Tu ne l'as pas fait.
Je l'ai jamais fait.
Tu ne l'as pas fait.
Je voulais qu'on revienne justement sur ce fameux syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu sais pourquoi on ne se sent pas légitime dans ce qu'on fait? Est-ce que tu as une explication un peu rationnelle,
Je cherche une explication. Moi, longtemps, j'ai cru que c'était à cause de mon éducation. Parce que mes parents, ce sont des gens qui s'excusent toujours d'exister.
Oh là 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 là, la mère de mon mec est comme ça.
Non, mais j'ai toujours l'impression qu'ils sont... Il n'y a pas longtemps, j'étais à Cône-sur-Loire, je faisais partie du jury d'un festival de cinéma là-bas. Donc, je suis née à Cône-sur-Loire, mon père habite toujours là-bas. Mmh. Je lui dis, tu peux venir, viens, tu seras invité à tous nos déjeuners, dîners, je reste 3 jours, je dors même pas à la maison, je dors dans un hôtel. Tu peux venir voir les projos avec moi, tu peux venir... t'es invité? Ah non, non, je n'y tiens pas, je ne veux pas vous déranger. Mais on se voit une fois par an, donc pardon, mais c'est quand même chelou, quoi, de dire... Non, non, mais je vais aller pêcher. Juste, en fait, il va me dire qu'il va aller pêcher, qu'il a prévu d'aller pêcher, parce qu'il ne veut pas gêner.
Il n'ose pas déranger.
Il n'est pas à sa place. En fait, ma mère, c'est pareil. Non, non, mais on ne veut pas vous déranger. On ne va pas manger avec vous. On va pas... c'est comme si on était de trop, en fait.
Et donc, c'est pour toi, il y a un lien avec ce sentiment
non-légitimité. Mais il y a ça, déjà. Mais il y a peut-être aussi un truc plus profond. Peut-être qu'il faut aller chercher dans l'ancestralité, faire un voyage, je sais pas.
Moi, je pense que ce truc de légitimité, d'imposteur, de ce sentiment un peu d'être, de pas être suffisant, il y a évidemment, je pense, l'éducation, tu vois, qui joue, mais il y a quand même un truc de comparaison énorme. En tout cas, pour ma part, j'ai toujours, et moi, c'est pour ça que je te posais la question de est-ce que t'as pas eu la sensation quand même de mériter de gagner la Star Academy? Je te demande ça parce que moi, je vois très souvent que ce podcast, par exemple, c'est un exemple tout belle parce que moi, c'est comme ça partout. Je pense que c'est pareil pour toi. Mais moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Mais il y a d'autres gens qui le font tellement mieux que moi. Parce que c'est cette histoire de valeur, tu vois. Et en même temps, je me dis, mais non, moi, je suis forte, je sais le faire et je le fais bien. Tu vois, il y a toujours ce moment où j'ai besoin de contrebalancer les trucs.
Alors, je comprends.
Mais cette sensation d'imposteur, de jamais être à la hauteur.
Oui, de ne jamais être assez.
De ne jamais être assez.
Moi,
c'est exactement
ça. Cette sensation, en effet.
Et je dirais même qu'il y a un truc avec la validation du regard de l'autre. Alors l'autre, c'est peut-être pas n'importe qui. L'autre, ça peut être n'importe qui aussi, mais de vouloir toujours être reconnu à la bonne, juste place. Mais qu'est-ce que c'est la juste place, tu vois? Mais ce truc de syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est...
La juste place, elle bouge en plus, quoi.
Elle bouge tout le temps. Mmh. Et c'est... En fait, tu mérites pas ça, tu mérites quoi?
Oui, c'est ça. Ben ouais, non, mais c'est... Non, mais je... Alors, c'est très, très intéressant. Effectivement... Effectivement, je pense que...
Je pense qu'il y a un truc...
On se met la barre haut aussi. Haute?
On se la met haute, la barre. Ouais, je pense.
Je me suis toujours posé la question.
Ouais, je pense qu'on
se la prochaine fois, on invitera, nous
la barre est haute.
Nous inviterons quelqu'un de l'Académie française.
Exactement. Mais ce truc de légitimité, pour moi, c'est vraiment un truc de valeur, tu vois. Il y a un truc de valeur dans ce qu'on est.
Mais
dans...
t'es perfectionniste aussi?
Alors, tu vois, après, ça, c'est un autre sujet, mais qu'est-ce que ça veut dire, la perfection? Je suis perfectionniste sur plein de trucs.
Parce que tu te dis, ça doit être parfait, sinon je le fais pas, ou alors d'autres...
Non, non, parce qu'en fait, tu vois, typiquement, ce podcast-là, j'imagine toujours d'autres choses mieux, mais en fait, j'arrête pas de me dire, moi, ce qui compte, et de plus en plus, avant, j'étais pas comme ça, j'étais vraiment pas comme ça. Maintenant, ce qui compte pour moi, c'est le présent, de plus en plus.
Ah oui.
Là, par exemple, tu vois, j'avais pas du tout... tu vois, il y a Julien qui m'aide à écrire, enfin, on travaille un peu ensemble pour les questions et tout, je les ai pas lues du tout en amont, parce que je me suis dit, ok, si je les lis en amont, que ça me plaît pas, que je lui en reparle, je vais me sentir dans l'état, je préfère être sur le moment, s'il y en a une qui me plaît pas. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que je préfère beaucoup plus incarner ce que je vis que
en
de
fait,
projeter.
Ouais.
Mais c'est
projeter,
hyper
c'est
dur.
C'est une erreur, en fait. Hein. Parce que tu vois...
t'es pas dans le présent,
tu
en fait.
Tu vois soit ce que tu espères qui va se passer, Et souvent, c'est pas ce qui se passe. Soit tu vois le pire et du coup, ça te met dans un truc de stress, d'angoisse, de... Ouais.
Est-ce que tu as des exemples concrets, marquants, de moments de doute dans ta carrière? C'est des trucs qui te viennent comme ça, où tu dis « Ah ouais, là, j'ai vraiment douté, là, je me sentais pas légitime. »
Oh, j'en ai eu plein. Oh, j'en ai eu plein. Bah, déjà, quand j'ai travaillé en studio avec Benjamin Biolay, et qu'il m'a dit... moi, je lui ai dit « Ah, bon, alors, je compose mes morceaux. » à la guitare, donc je voulais jouer, et puis après, il y a un guitariste qui va rejouer mieux, hein, parce que moi... Mmh. Et en fait, il m'a dit « Tu plaisantes, personne n'est capable de jouer ce que tu es en train de faire, parce que c'est ta manière de jouer. » Et j'étais mortifiée de me dire « Je vais mettre moi, avec ma guitare, moi qui ne travaille jamais mon instrument d'ailleurs, j'ai perdu énormément, de devoir me mettre devant un micro, c'est ma guitare qu'on va entendre devant. » Et je me mettais la rate au courbouillon avant d'arriver au studio, et puis finalement... avec les gens avec qui je travaillais, ça s'est débloqué. Mais il y a eu ça, il y a eu même la première fois que j'ai dû jouer à la comédie, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi ils me choisissent moi?
Oui, donc aussi, parce que c'est ça, t'es comédienne.
Bah ouais, pas beaucoup, mais ça commence à me plaire. Là, ça s'ouvre un peu.
C'est génial. Ouais.
En fait, avec l'âge, j'ai l'impression qu'on apprend à se... Enfin, j'ai l'impression que pour toi aussi, on apprend à justement à se rapprocher du présent et à se donner la chance de vibrer à ce moment-là, quoi. Plutôt que de vibrer dans le passé ou vibrer dans le futur, ce qui fait que le présent, il est inerte. Et ça nous désincarne dans le présent, quoi. Donc,
ou ça nous incarne dans le présent aussi.
Enfin oui, ça nous incarne dans le présent, oui. de ouais. Vibrer dans le présent.
C'est marrant parce que moi, quand je suis devenue comédienne, il y a eu un truc qui s'est passé, tu vas me dire ce que t'en penses. Moi, mon agent, Annabelle, elle a appelé du coup ton agent, qui était le mien
ouais.
À l'époque. Elle m'avait vue à Taratata. Et en fait, j'avais chanté, je
ah oui,
crois.
Fait, c'est vrai.
Je l'ai fait deux fois, je sais plus si c'était avec. Je crois que c'était avec Pauline Gros ou James Morrison,
ah,
je sais
ouais.
plus. Et elle appelle Laurent, du coup, et elle dit Juliette, elle est comédienne, je voudrais la rencontrer. Donc Laurent me dit ça, et je rencontre cette meuf, Annabelle. Et tout de suite, je lui dis écoutez, madame, je suis désolée, je vous arrête, mais je suis absolument pas comédienne. Mais si, vous l'êtes, mais j'ai jamais pris de cours. Elle me dit mais justement, en fait, vous avez un truc incarné, vous êtes actrice, quoi. Et en fait, il y a eu à la fois ce sentiment d'imposteur parce que je me suis dit, elle voulait pas que je prenne de cours. Hein. Elle m'a dit, pour moi, vous avez un truc qui est là.
Ah ouais.
Prendre des cours, justement, ça va fausser votre...
Ta spontanéité.
Voilà,
quoi.
Exactement. Donc à la fois, je me disais, mais mon Dieu. Et d'ailleurs, les premières fois où j'ai passé des castings, où j'ai joué dans des films ou des séries, je me disais, mais putain, mais pourquoi je suis là? Je suis nulle, je sais pas jouer, je suis pas dans le bon ton. Et à côté de ça, il y avait un truc où je me la pétais parce que je me disais, eh ouais, moi, j'ai jamais. Je me racontais ça, tu vois. Je l'ai jamais dit.
Mais oui,
mais je me racontais, waouh, je suis hyper forte. Moi, j'ai jamais pris de cours. Et ouais, tu vois, il y avait ce truc-là qui était tout le temps, tu vois, très
ambivalent. Ouais, je comprends tellement.
T'as pas ce truc-là parfois, toi, ou c'est que du négatif tout le temps?
Moi, je doute toujours énormément, mais ça commence à aller mieux. En fait, maintenant, je sais en quoi je peux avoir confiance en moi, en quels outils je peux utiliser. Parce que comme toi, je n'ai pas pris de cours. Et en plus, j'ai un problème de concentration, enfin, un trouble de l'attention quand même. Qui est assez prononcé. Et donc, je me disais, impossible pour moi de jouer la comédie, parce que déjà, il faut être bien fixé sur ce que tu es en train de vivre. Tu fais le truc plusieurs fois. En fait, la scène, moi, me permet de me concentrer. Mais la caméra, ouais. Beaucoup moins.
Et oui.
En fait, vu que tu répètes les choses possiblement 4-5 fois, si ce n'est plus, ouais. Au bout d'un moment, je me désolidarise de ma concentration. Et c'est un enfer, quoi. Donc, j'étais sûre que j'y arriverais jamais, en plus, que j'avais pas une belle voix à parler, que mon visage, ça marchait pas, que je grimaçais, que... Oh et surtout, le corps filmé, moi, ça me stresse énormément. Je préfère être sur scène et que les gens me voient avec des
pourquoi
yeux.
Pourquoi t'aimais pas voir ton reflet T'aimais pas voir à quoi tu ressembles à la caméra?
Ouais, je trouve que se voir... D'ailleurs, je n'y arrive toujours pas. J'ai un peu de mal à me regarder. Là, j'ai tourné une série pour M6. Qui est sorti en décembre. et en fait, j'ai beaucoup de mal à me reconnaître parce que je me vois pas vivre, en fait.
Enfin, oui, mais alors justement...
C'est moi, mais c'est pas moi.
Mais justement, moi, petit... Enfin, c'est pas un tips, mais à chaque fois que je me vois dans des séries, dans des films, je me dis, mais c'est pas moi. Mais justement, c'est pas moi.
Eh ben non, c'est pas toi.
Eh ben, c'est génial.
Oui, c'est génial. En fait, ça commence à venir, là.
En fait, j'ai pas de jugement parce que ce n'est pas moi. J'incarne.
C'est exactement ce que
personnage.
Je commence à digérer. Ouais. Maintenant, alors qu'avant, je me disais, oh là là, attention, ça va être toi. Donc, j'allais pas au projo, je disais que j'étais pas là.
C'est fou.
Attends, le pire truc qui me soit arrivé en mode syndrome de l'imposteur, c'est mon agent David, mon agent cinéma, qui me dit, qui m'appelle furibond. Bon, est-ce que t'es là? Est-ce que t'es là demain à Paris? Parce que il y a une équipe des États-Unis qui est là. Ils veulent te voir. Ils ont sélectionné ton dossier pour être casté, pour être la prochaine James Bond girl. Il y a très peu de filles qui ont été choisies.
What? Incroyable.
Je sais plus en quelle année c'était. C'était il y a longtemps. Il y a au moins 10 ans, quoi. Mais c'était pas avec celui qui a été avec Léa Seydoux. C'était une fille qui était de type eurasien. J'ai oublié son nom. Qui était très bien d'ailleurs, bravo. Mais j'ai oublié son nom.
Okay. Et alors?
Et en fait, je lui dis, mais attends, mais c'est donc quoi? Il y a des textes à apprendre, c'est en anglais. Il faut t'habiller comment? Et c'est où? Dans un hôtel, machin. Et en fait, je panique totalement. Je me dis, je vais jamais réussir à le faire. Je vais pas savoir bien parler anglais. Je maîtrise pas assez la langue. Je suis pas fluide. Je suis mal dans ma peau. Dès que je fais des essais, que ce soit en français, en italien, en anglais ou en chinois, franchement, je suis mal à l'aise. Je déteste ça, ce moment. Mais je trouve ça humiliant. Je préfère discuter avec les gens avant de faire les essais. Et ça n'arrive jamais. Mmh. T'as 5 minutes pour être le moins pire de ce que tu peux être dans tes essais, quoi. Mmh. Et en fait, j'invente. Oh là, putain, David, si tu écoutes ce podcast, j'espère que tu me pardonneras. J'invente un truc, mais un truc
prétexte.
Mais énorme. Un truc qui fait de moi une grande actrice. Parce que, en fait, au lieu d'inventer un truc tout simple, genre, je me suis cassé le col du fémur. Ouais. non, j'invente un truc où je me suis fait agresser dans la rue et que je dois déposer plainte et je sais pas quoi. Bon, c'est un truc qui m'était déjà arrivé. Donc voilà, je me servais de mes outils. Ouais. Mais j'ai inventé un truc qui a fait que.
Je n'avais tellement
pas
peur.
Être là. J'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur que j'ai préféré ne pas aller à ce truc et me dire de toute façon t'es nul. Et puis je vois pas pourquoi ils t'ont demandé toi. Ils ont dû se tromper. Mais vraiment, je ne comprenais pas quoi.
Podcast.
Est-ce que tu arrives à trouver des solutions quand justement t'es dans ces moments de panique ou dans ces pas de panique? Si, parce que c'est de la panique aussi. Mais ouais. Est-ce que tu arrives à trouver des solutions quand tu es dans ce moment où tu te sens pas légitime? Il y a des trucs où tu dis. Ok, là, j'ai pas rentré dans ma parano, j'ai pas rentré dans ce truc-là, ou t'y arrives pas?
Je trouve que ça va mieux avec l'âge, que en fait, je fais confiance à mon intuition beaucoup plus qu'avant, et non plus au regard des gens. En fait, je me dis plus, oh, ils vont penser que. Je me dis, je vais faire confiance.
Ça, c'est l'âge, hein, aussi.
Ouais.
Je
suis contente d'avoir 40 ans et plus 20, parce que franchement, c'est épuisant. Ouais. C'était épuisant d'être comme ça. Et ça te fait perdre un temps fou, ça te fait perdre des opportunités, parfois même des amis parce qu'ils supportent plus que tu sois toujours en train de te casser du sucre sur le dos et de pas avoir confiance en toi. Mmh. Puis voilà quoi, tu fais moins chier le monde, je trouve. Non mais attends, sinon je pensais à un truc. Mais quoi?
Est-ce qu'il y a des astuces
Ah oui. L'alcool.
Peut-être pas. Hein.
L'alcool.
L'alcool, ouais, on va peut-être pas le dire.
En fait,
moi ça me dérange pas, mais j'ai peur que les gens nous disent ouais.
Non, mais je crois vraiment faire confiance à son intuition, à sa spontanéité. En fait. Je pense que c'est ce qui me sauve aussi dans le jeu, c'est que tout à coup, je vais me servir aussi de qui je suis, quoi, dans mon énergie. Mmh. En fait, faut surtout pas sortir de qui on est, mais faut se servir de ses outils pour.
Mais je pense que tu arrives à le faire parce que maintenant tu te connais en tant qu'artiste depuis presque 20 ans.
Ouais, ouais. Faut aller à
sa rencontre. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais après, le truc du syndrome de l'imposteur, il y a quand même vachement de niveaux très différents. Il y a juste le niveau qui est déjà énorme et c'est pas facile de vivre avec ça. Je suis pas à la hauteur de ce travail-là ou je mérite pas assez. Et puis tu as d'autres gens comme tes parents et comme la mère de mon mec qui s'excuse pour tout, mais qui s'excuse pour tout d'être là. Je veux pas venir, j'ai pas envie de vous déranger, machin. Mais je suis là de.
Mais
un moment, elle est tombée. Elle est tombée dans son jardin et elle a dit oh la honte. Oh, bah, attendez, on a commencé à la relever. Oh non mais c'est la honte. Attendez, vous embêtez pas. Et ça nous rend malade, ça nous rend dingue.
Nous quand on va dîner à Noël dans ma famille, souvent c'est ma mère cuisine des trucs et elle dit oh bah c'est rien, j'ai tout acheté chez Lidl. Enfin tu vois, en fait c'est comme même par rapport à moi je trouve ça gênant parce que évidemment j'ai gagné un peu plus d'argent que si j'avais fait autre chose dans ma vie avec cette émission. Évidemment bah j'ai pu acheter un appart à Paris. Bon après il y a eu des hauts et des bas mais mes parents ils le savent et encore je leur dis pas trop parce que je sais que nous à la base on était des gens très très modestes mais ma famille l'a restée. Et en plus, ils ne vont jamais accepter que je les aide si je peux les aider. Enfin, bon, c'est des gens qui sont très... Et ma mère, si elle va préparer un truc de Noël ou un dîner, en fait, ça me gêne parce qu'elle va toujours faire une référence au porte-monnaie en disant, en gros, en s'excusant de pas être comme moi, en gros, quoi. Je le sens comme ça. Moi, je le prends comme une attaque alors que j'ai pas énormément de fric. On n'en parle pas. J'en parle pas. Je vis comme je peux à Paris en faisant mes choix. En plus, je pourrais vendre des... je sais pas, un sèche-cheveux Dyson. D'ailleurs, j'en rêve, Dyson, si tu m'entends.
J'ai un contact, je vais te le donner.
Et le... Mon Dieu. Non, mais je vois, elle dit toujours, oui, c'est rien. Oh, c'est rien, c'est... Non, mais franchement, bah, le pain, bon, c'est le pain de la boulangère à côté. Bon, il est pas toujours... mais bon,
est-ce qu'elle était comme
j'ai
ça...
pas de caviar.
Est-ce qu'elle était comme ça avant que tu deviennes connue?
Bon, oui, elle s'est toujours un peu... Non, c'est... je crois que c'est pire. Je crois que c'est... Ça, c'est un peu... Surtout quand on vient avec, je sais pas, notre chérie, ou on a l'impression qu'ils sont jamais assez bien et que du coup, elle va. Ah, je dis du coup, tiens aussi.
On le dit beaucoup. On est nombreux à le dire.
Et voilà, elle va dire bon voilà, j'ai acheté ça, bon c'est rien. J'espère que ça vous va. C'est... Ah bah oui, le champagne. Bon bah j'ai pris un champagne un peu bon marché. Mais
c'est pas suffisant. Quoi.
Mais nous, ça nous va très bien d'être ensemble, quoi. Franchement.
Ouais, complètement. Bon. Tu parlais du chéri justement. Est-ce que t'as déjà senti un peu ce syndrome-là dans tes relations amoureuses?
Ah, que je méritais pas d'être avec
que
quelqu'un.
Que tu méritais pas assez, que t'étais pas suffisamment quelque chose ou quelqu'un ou je ne sais quoi.
Ah ouais, tout le temps.
Ouais.
En fait, j'ai senti que j'étais souvent trop, mais dans le négatif, et pas assez dans le positif. Et tu sais quoi, ça m'a même mené, attention, je vais dans l'intimité sans parler de mes relations vraiment à fond, mais...
Tu peux, tu fais comme tu veux.
Mais souvent, j'ai possiblement saccagé des histoires, ou même des débuts d'histoires, pour ne pas me retrouver dans une situation où je me sentais mal, pas assez. En fait, au début, je donne beaucoup. Au début, je donnais beaucoup à une époque, parce que je crois que j'ai un peu changé. Et tout pour être tellement parfaite pour l'autre, pour être aimée, en fait. C'est ça,
pour
quand j'étais plus jeune,
aussi.
Avant la Starac, tout ça. Hein. Pour être validée, exactement. Beaucoup, alors vas-y. Alors, tout de suite, j'avais un espèce de laser, un scanner plutôt, qui scannait tous les besoins de l'autre. Donc, je suis très empathique. Donc, je saisis très vite ce qu'il va falloir dire, pas dire, être, pas être...
Pour t'adapter à l'autre.
Et pour m'adapter. Et je m'adaptais à la forme de l'autre. Alors que ma forme, elle est quand même intéressante et c'est une forme qui est très dense et qui est très intense. Donc souvent, j'ai dû me rétrécir ma propre forme pour rentrer dans celle de l'autre. C'est prétentieux peut-être de dire ça, mais bon,
non, ça
j'ai compris,
pas du tout.
J'ai compris
ça
tout ça
tout.
En travaillant. Oui. Et peut-être que ça aidera des gens, je ne sais pas. Et donc, au bout d'un moment, tu peux pas parce que ta vraie forme, elle revient.
Bien
et ça déborde, ça dégouline, ça explose les trucs. Et tu te mets à saccager le truc parce que tu sais que ça va pas marcher, parce que tu ne seras jamais comme l'autre, comme tu imagines que l'autre voudrait que tu sois.
C'est là où est toute la nuance. Ouais.
Et finalement, toi-même, tu es frustré. Ouais. Et donc, tu t'en vas, quoi. Tu te barres en courant, tu saccages le truc.
Parce que t'as l'impression que si tu te montres tel que tu es, personne
ouais,
ne
exactement
sera là.
Que ça ne que oui et surtout que si la relation dure 1 an et demi 2 ans 3 ans au bout d'un certain temps au bout de 1 an mettons bah tu ne peux pas lutter contre ta vraie nature donc l'autre va commencer à entreapercevoir qui tu es et avec toutes tes failles avec tes lacunes avec tes sautes d'humeur avec ta personnalité débordante surtout si t'es une artiste enfin tu sais c'est de quoi je parle et en fait tu vas te dire bah non je suis trop ceci ou pas assez cela il vaut mieux que je m'en aille parce qu'en fait je rentre plus dans sa forme quoi donc moi ça m'est arrivé beaucoup plus jeune de saccager le truc quoi. De lui dire, mais non, laisse tomber, je suis pas assez pour toi, tu vas être malheureux, je me casse. Trouve-toi quelqu'un qui te corresponde. C'est
qui
pas
est
moi.
Mieux que moi, quoi.
Ouais, exactement.
Est-ce que t'as l'impression parfois d'être encore la petite fille que tu étais avant, de cette petite fille, comme tu disais, pas très jolie, qui voulait pas faire de vagues, etc. Ou alors tu sens que t'as un peu bougé?
C'est marrant parce que je faisais quand même des vagues, hein, parce que j'avais un grand sens de l'humour.
Ah.
Comme j'avais pas un physique que je trouvais avantageux, j'avais développé autre chose, donc la poésie et l'humour. Je faisais beaucoup rire ma famille, je pense. Un pitre. Mais bon, c'est une autre histoire, mais effectivement, je pense qu'on garde en nous la présence de cet enfant ou de cette adolescente. Je pense que c'est quelque chose qui est très fort imprimé en soi et qui, d'ailleurs, qui communique avec la personne qu'on est, qu'on incarne maintenant. Et je pense que c'est utile qu'elle soit toujours là. On ne peut pas l'enterrer.
Ouais.
Mais en revanche, réussir à la
dompter.
Ouais, à la rassurer, quoi. Mmh. À lui dire merci, bravo, pardon. Ça, c'est encore assez compliqué pour moi. J'y arrive parfois, je le touche du doigt, mais il y a encore du taf.
Mmh.
Mmh. Et toi?
Oh, et moi? Attends, j'étais pas du tout branchée sur moi, j'étais complètement sur toi. Et moi, quoi, du coup?
Bah oui, du coup, toi, est-ce que tu es toujours branchée sur ton adolescente ou ton enfance ?
Je crois pas du tout. Et c'est ça qui est justement, moi, qui me manque un peu. Enfin, je suis pareil que toi, à plein de niveaux, j'ai occulté beaucoup de choses parce que j'ai vécu voilà, des traumatismes, plein de trucs, quoi. Et donc, j'ai une mémoire, du coup, un peu nulle. Mais
c'est très chiant,
mais ça se travaille, hein, parce que je suis en train de le bosser en psy.
Ah ouais.
Et je vois que je commence à me souvenir de certains trucs que je voyais pas il y a quelques temps.
Incroyable, non mais c'est un gros taf.
Ouais, c'est un gros travail, mais non, je me sens assez éloignée de moi, petite. Et ça me manque parce que justement, moi, j'étais très insouciante, très naïve, très candide.
Ah ouais.
Et je suis plus trop ça. Et ça me manque, hein, parce que je vois que je suis devenue très sérieuse.
Oui, c'est ça, ouais, ouais.
Je suis sérieuse, j'ai des problématiques d'adulte. tu vois, c'est plus trop aussi rigolo et léger qu'avant. Mm. Mais par contre, ce sentiment du syndrome de l'imposteur, moi, je le vis depuis petite. Hein.
Ah ouais.
Vraiment, depuis que je suis gamine.
T'as des frères et sœurs, non ?
J'ai un demi-frère qui a 15 ans de plus que moi. À qui je ne parle plus maintenant, mais en fait, même à l'école, j'étais toujours pas assez, jamais assez, jamais suffisante, jamais tout ça.
Et je le vis encore. Tu voulais avoir 20, quoi.
Oh, bon, c'était plutôt, j'avais 7 et j'avais envie d'avoir 9. c'était plutôt ça, mais en fait, je me comparais énormément aux gens. Et j'ai l'impression. Ouais, c'est vraiment, c'est un truc qui est très compliqué. Enfin, je pense qu'il ne s'en va jamais vraiment.
Non.
Est-ce que tu penses d'ailleurs que le syndrome de l'imposteur, on vit avec ça toute sa vie, ou alors on arrive un moment à se détacher de ça?
Je sais pas, mais.
Est-ce que tu sens, toi, avec les années, que tu arrives à te détacher un peu de ça? Ou alors, au final, c'était... c'est vrai que c'était il y a 20 ans, mais finalement, tu es au même niveau. Tu vois, de ce sentiment d'être suffisant.
Je pense que j'ai quand même un peu évolué, mais il me reste quand même quelques miettes de ce sentiment-là, quoi. Mais même, tu vois, là, j'ai fait une série pour M6. J'hallucinais qu'on veuille que je sois ce personnage, en fait, que ce soit acté, en fait. Bon, j'ai pas passé d'essai, mais j'ai rencontré le réalisateur, il m'a dit, super, on le fait. Et pendant 24 heures, j'étais pas sûre, j'ai demandé à mon agent de rappeler. Je dis, juste pour être sûre, parce que il m'a pas vu jouer, en fait, donc pourquoi ?
Je suis peut-être pas suffisamment bonne.
Est-ce qu'on est
sûre
que je peux le faire ? Enfin, voilà. Et,
c'est terrible.
Je pense que ça reste quand même, et ce truc de comparaison, pour moi, c'est une des clés.
Je sais pas
si t'as fait de la danse classique ou des trucs comme ça, mais c'est terrifiant, ça.
J'en ai fait quand j'étais toute petite. J'en ai fait pas assez, je pense, pour me rendre compte. J'ai fait, par contre, de la danse africaine, de la danse indienne.
Ah ouais, on est plus proche de ses hanches et de la terre, en fait. Donc, je pense qu'il y a moins ce truc de je sais pas...
De posture, d'élégance.
Posture, ouais, c'est ça. Ah, regarde, Elodie. Moi, en plus, j'ai des sœurs. Donc, la comparaison avec qui, c'est... On est très rapprochés, en fait, dans l'ordre des naissances. Et donc, forcément, les gens ne sont pas toujours très bien éduqués. Et la comparaison entre sœurs, ça a été un fléau pour moi.
Et tu te compares encore beaucoup aux autres maintenant ou moins ?
En fait, je pense que je le fais peut-être sans m'en rendre compte, mais je crois que ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, ouais. Je pense qu'on le fait dans des moments où on doute énormément de soi, où on ne se sent pas très bien dans sa peau, où, je ne sais pas, on est un peu en faiblesse, en fragilité. Je ne sais pas, on a été un peu malade... On se sent pas hyper bien dans son corps ou je ne sais quoi. Là, ça peut revenir. Ou alors, dans ce qu'on a fait, on n'est pas très fier de soi. On a accepté un contrat qu'on n'avait pas envie d'accepter. Donc, tu vois, quand tu es un peu à côté de toi, justement, que tu n'es pas incarné, tu peux retomber dans cette espèce d'exercice de comparaison. Ah bah tiens, bah oui, elle chante mieux que moi. Bah, pourquoi ? Ah oui, bah, je comprends pourquoi ils avaient pensé à elle avant moi. Moi, finalement, je suis la roue secours. Ça peut revenir. Mais comme maintenant, j'ai quand même pas mal travaillé sur... incarnation ici et maintenant et puis voilà, de toute façon on a qu'une vie, on a qu'un corps et on a qu'une seule un seul chemin qui à mon avis est déjà tout tracé. Moi je crois pas au hasard ni à la chance.
Tu crois
à
ça, toi?
Ouais, je pense qu'il faut y aller, quoi. Faut y aller, faut arrêter de se dire ah, j'ai été moins bien, je suis bien, je veux pas être assez. Mais c'est pas facile à faire.
Là, j'ai cru comprendre en début d'épisode que tu te sentais... que tu étais dans une période un peu compliquée en ce moment.
Ouais, mais je crois que c'est la... Tu sais, c'est la période de l'année.
Ah, mais il y a plein de gens qui sont... Alors ouais. Là, l'épisode, il est fait fin... Attends, on est quelle date, là? Je sais même plus quelle date. On est fin novembre,
On
est fin novembre. On est de plus en plus à être effectivement le burn-out de la fin d'année. Mais...
Ouais, c'est ça.
Est-ce que tu arrives... Vu que pour toi, tout est tracé.
Je dois prendre des grosses décisions, en fait.
Alors justement, j'allais te demander...
Qui sont aussi liées à mon âge. Et c'est vrai que nous, les femmes, je trouve qu'on a beaucoup plus de pression que les hommes par rapport à ça.
Ah, oui.
ne serait-ce que pour, tu vois, une idée d'avoir une famille et tout ça. Moi, j'en sais rien, hein, mais je me pose encore la question. Pour moi, c'est pas vital d'avoir des enfants.
C'est pas une fin en soi du tout.
Voilà, c'est pas une fin en soi, mais enfin, en fait,
ça dépend pour qui.
Je me pose quand même la question. Mais... En fait, je me dis quand même, putain, j'ai 41 ans, mais dans 3 mois.
Mais tu sais, attends, Élodie, c'est aussi la société. Enfin, pardon d'avoir ce discours-là, pression. Mais quand tu es une femme et si tu approches les 40 ans ou si tu as 40 ans et que tu n'as pas d'enfant, quelque part, tu as raté ta vie. C'est affreux de penser comme ça.
Ouais. C'est affreux. Ça évolue beaucoup.
Ça évolue de plus en plus. On libère la parole sur tout ça. Mais est-ce que si, selon toi, ta vie, elle est un peu toute tracée, etc., comment tu vois ton avenir là ? Ton avenir, on ne parle pas des 20 ans, mais est-ce que tu te sens un peu
Disons que quand je dis que tout est tracé, tout est écrit et qu'il n'y a pas vraiment de hasard ni de chance, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça me permet de mieux accueillir les événements et les moments et aussi les bonnes nouvelles. Parce que se dire, justement, ça aide ce syndrome de l'imposteur à aller se rasseoir à sa place. Parce que si, par exemple, il me tombe un truc maintenant, plutôt que de me dire « Ah non, je peux pas, gnagnagna », en fait, je vais me dire « Bon, bah, c'est que ça devait arriver, donc c'est pas là pour rien. » Si je me sépare de quelqu'un ou que je rencontre quelqu'un et que j'ai un coup de foudre, en fait, je vais moins me torturer, me labyrinthiser le cerveau. Oui, j'invente des mots, on invente des mots aujourd'hui.
T'inquiète pas, on a tous compris ce que tu voulais dire.
J'ai moins me dire « Ah ben non, et ça et ça, et peut-être qu'il m'a intentionné. » Et puis, si je me sépare, ben non, en fait, non, ben non, lui, il cochait toutes les cases, oh, c'est dommage, tout le monde va être déçu pour moi. Non, en fait, je me dis, ça devait arriver. En fait, si les choses arrivent, ben c'est comme
ça.
Ah bah,
c'est bien, parce que c'est une manière aussi de te rattraper. Enfin, pas de te rattraper, mais de te rassurer aussi sur des choses qui peuvent arriver. Moi, je trouve ça génial que tu penses comme ça.
Ouais, c'est pas évident. Hein, mais...
Bon, j'ai pas dit que ça m'était.
Mais je trouve que c'est... En fait, ça me fait avancer. Ça, en tout cas, ça te ramène à toi, plutôt que d'aller projeter les choses sur les autres, sur la douleur que tu peux faire souffrir des gens aussi.
Mais, je suis complètement en lien avec ce que tu dis. Et je sais pas si... La culpabilité. Culpabilité latente aussi qui est là.
Oui,
la culpabilité d'être...
Elle est là, elle est dans tout.
Elle est dans tout, c'est
fatigant. Tout nous culpabilise depuis toujours.
Ouais.
Serait-ce que depuis la nuit des temps, les religions diverses et variées, quoi. Mais tout est fait pour nous faire nous sentir
Et puis quand t'es une femme et que tu bosses beaucoup, bah tu devrais te sentir coupable d'être une girl boss. Enfin voilà. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant de parler de tout ça avec toi. On aurait pu parler comme ça pendant des heures.
Je pense qu'il faut absolument qu'on se revoie.
Bah on va se revoir. Et je voulais quand même te le dire, ça vaut ce que ça vaut vraiment. En fait, on se connaît depuis hyper longtemps, toi et moi, mais en fait, on se voit peu.
On se voit pas peu.
On s'est pas mal vu pendant un moment avec Joy Jonathan et Rose. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu un truc un peu d'admiration chez toi. Déjà, je t'ai toujours trouvée très très belle, vraiment. Je trouve que t'as un truc.
Je m'attendais pas à ce que tu dises.
Mais non, mais moi non plus, je m'attendais pas à dire ça.
Tu allais dire que j'étais drôle ou je sais pas quoi.
Oui, tu es drôle aussi. T'es drôle et sympa. Mais je t'ai toujours trouvée très femme, en fait. Il y a toujours un truc que j'ai trouvé très très beau, très féminin chez toi, alors que tu vois, on en parlait tout à l'heure de son côté très masculin. Et je t'ai toujours trouvée très belle et très talentueuse. Vraiment, je me souviens de toi à la Star Academy où je regardais les trucs avec Benjamin Biolay. Je me disais, waouh, putain, mais c'est quoi cette voix incroyable? Putain, mais elle a un regard de ouf. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut.
Le
fameux strabisme. Mais quelle chance d'avoir un strabisme. Bah, tu veux que je te dise, mon mec a un strabisme important. Donc, comme quoi, tu vois, on peut trouver de la beauté.
Les strabismes sont peut-être des gens singuliers, j'espère. C'est ce que je tends à me dire maintenant, parce que ça m'a tellement fait souffrir.
Oui, non, mais faut se rassurer avec des trucs.
Bah,
mais
merci.
En tout cas, voilà, je voulais te le dire parce que je trouve que t'es quelqu'un, t'es une très belle personne, même si on se voit peu, on s'est pas mal vu. Et je trouve que t'as beaucoup de talent et t'as une intelligence hyper.
Comme toi.
Bah, merci beaucoup.
Non, mais alors.
On peut aller baiser si tu veux, il n'y a pas de problème.
Avec joie, mais je crois que je suis en période de.
Aïe,
rouge, comme tu
dis. Non, mais voilà, je voulais quand même te le dire. Et puis en tout cas, les personnes qui nous écoutent et qui ont ce sentiment un peu du syndrome de l'imposteur, déjà, sachez que vous n'êtes pas seuls.
Ils peuvent m'appeler.
Parce qu'ils peuvent appeler Elo au 06 12 48, je ne sais pas, je ne connais pas son numéro. Mais sachez que vous n'êtes pas seuls, parce qu'en fait, on est quand même hyper nombreux. Je ne sais pas combien il y a de pourcents, peut-être 70%, un truc comme ça, de gens qui ont ce sentiment du syndrome de l'imposteur.
C'est un phénomène de société et c'est pour ça qu'elle doit changer.
Ouais, et puis c'est pas que féminin, parce qu'il y a plein de trucs qui sont que féminins, mais là, pour le coup, j'ai beau parler avec plein de potes qui ne se sentent pas à la hauteur, qui ne se sentent pas suffisamment bon, parce qu'il y a un truc de valeur, de comparaison, etc. Donc, n'hésitons pas à échanger là-dessus. Merci, Elodie, d'avoir accepté mon invitation.
Petite parenthèse.
Ouais, vas-y.
Je parle, justement, c'est drôle que tu me dises ça, parce que je parlais de toi hier à mon meilleur ami.
Fabien?
Qui est médium, si jamais tu as besoin de parler avec un médium.
D'accord.
Ah oui, non. Il s'appelle Chou.
Il s'appelle Chou ?
C'est son surnom.
D'accord.
Et en fait, j'oublie comment il s'appelle maintenant, parce que...
D'accord.
parce que tout le monde l'appelle Chou, parce qu'il appelle tout le monde Chou. Et en fait, je lui parlais, je lui disais, ah, demain, je vais faire un podcast, et il te suit. Je crois qu'il te suit. Et il me dit, ah oui, ouais, oui, super, j'adore, et tout. Et je lui dis, mais moi, en fait, je la vois jamais, mais à chaque fois que je vois Juliette, j'ai l'impression qu'on s'est quitté la veille, qu'il y a un vrai lien entre nous, et une compréhension. Ça, c'est pas donné à tout le monde, je trouve, d'avoir ce rapport-là, et je suis ravie que tu ne m'en veuilles pas, parce que il y a des gens qui m'en veulent qu'on se voit jamais, parce qu'on on a quand même des agendas très chargés, toi en plus t'as un enfant, donc jamais je ne t'en voudrais qu'on ne se voit pas pour faire un brunch tous les dimanches, quoi. Mais je trouve ça cool, en fait, de se retrouver.
Mais c'est vrai.
C'est pas seulement pour le micro ou le podcast.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
On a partagé un moment, je peux pas déjeuner avec vous après, tu vois.
Super sympa la meuf, ok. Mais c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu et qu'on a déjeuné ensemble, je sais plus combien de temps on est resté ensemble.
Non, mais c'est vrai que ton cerveau va vite, donc c'est très agréable de parler avec toi, de te voir évoluer, même de t'entendre chanter. Tu m'as dit que tu chantais plus, mais moi j'aimais beaucoup ta voix et ta présence, quoi. Voilà, en tant qu'actrice, je t'ai vue aussi. Plutôt dans un téléfilm, je t'ai vu.
Ouais.
Par hasard.
Ouais.
Je sais plus comment ça s'appelait, mais.
Moi grosse.
Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça.
On parle de grossophobie et tout.
Ouais, c'était. Ouais. Mais tu joues super bien. Donc voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu as développé. Quand j'ai vu que tu étais amoureuse, j'étais ravie pour toi. Enfin voilà, tout mon amour.
Bah écoute, franchement, que de l'amour. Merci beaucoup. Je prends tout ce que tu me dis, vraiment.
Et pas un amour d'imposteur.
Oui. Effectivement. Bah écoutez, merci à vous pour votre écoute et pour votre fidélité. Je vous le redis, pensez à vous abonner au podcast, à mettre une petite étoile, un petit commentaire, un petit truc, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta et sur Twitch. Je vous souhaite, et je te souhaite, Elodie, de très belles fêtes de Noël, et je vous dis à la semaine prochaine, même studio, même micro, pour le dernier épisode de la saison. Je vous embrasse et je t'embrasse très fort. Ciao.
Bisous.
Podcasts. Podcasts.